José Moselli, La fin d'Illa, prologue. Grampus Isla. Il faut bien qu'il y ait un commencement à une histoire, quelle qu'elle soit, comme il faut bien qu'il y ait un commencement à tout, quoi qu'il n'y ait de commencement à rien. Le commencement d'une histoire est simplement le moment à partir duquel on s'intéresse à ses héros. Du moins dans la plupart des cas, mais pas dans celui qui nous occupe. On le verra. Le 22 mars 1875, vers 2 heures du matin, le brick américain Grampus de Norfolk, Virginie, voguait allègrement toutes ses voiles dessus vers le sud-est. Le point calculé quelques heures auparavant par le capitaine Ellis avait donné comme résultat 163 degrés de longitude ouest et 18 degrés 33 minutes de latitude nord. Chiffre d'ailleurs sujet à caution. Le capitaine Ellis, s'entendant beaucoup plus à abattre un homme d'un coup de poing ou à lamper d'une haleine une pinte de whisky, qu'à calculer correctement une droite de hauteur. Peu importait, le Narampus naviguait en plein Pacifique, loin de toute terre, et quelques milles d'erreur ne pouvaient nuire en rien. Accoudé à la lisse, une pipe en bouche, un véritable brûle-gueule, dont le fourneau, vraiment, se trouvait à moins de 3 centimètres de ses lèvres, le capitaine Ellis, un petit homme large et trapu, songeait mélancoliquement que depuis 17 mois et demi que le Grampus avait quitté Norfolk pour la pêche à la baleine, il n'avait pas eu la chance de rencontrer un seul de ces cétacés. Non, pas un seul. Pour peu que cela continuât, il faudrait revenir et chanter comme le légendaire cachalot. Nous n'avons rencontré ni baleine ni baleineau. Nous avons fait le tour du monde, notre cale est vide et nous sommes sans un sou, mais nous avons eu un damné beau temps. Pour l'instant, de l'espoir restait. Ellis comptait bien rencontrer des baleines dans les environs des îles Flanning. Mais il se méfiait, craignant que, s'il approchait trop de terre, son équipage, rassasié de coups et de morues salées, n'en profita pour déserter. « Oui, un damné bon voyage » maugréa-t-il en incrustant ses dents petites et jaunes dans le tuyau de corne de sa courte pipe. « Avec ces maudits gibiers que j'ai à bord, il faut que je... »« Land ho !»« Terre !» cria à ce moment l'homme de vigie perché dans les barres de perroquet. « T'es fou, saoul homme !» glapit Ellis en levant la tête vers le marin qui avait crié. Car il savait qu'aucune terre, île ou atoll ou simple récif n'existait à 100 milles à la ronde. « Mais terre droit devant nous, capitaine !» précisa l'homme de vieille. « Le port doit être ivre, c'est certain !» murmura le capitaine du Grampus, oubliant que depuis longtemps il n'existait plus une goutte d'alcool à bord, sauf dans sa cabine à lui. Machinalement, pourtant, il regarda vers l'avant. « Damne !» s'écria-t-il entre ses dents serrées. Sa stupéfaction était si intense qu'il faillit lâcher sa pipe. À moins de 3 miles en avant du brick, un large îlot de forme circulaire émergeait de l'océan. Qu'on se figure une lentille de pierre entourée d'une dentelle d'écume phosphorescente. Et sur l'étrange îlot, pas une lumière, pas un arbre, du moins rien de visible pour l'instant. « Damned !» répéta le capitaine, Ellis, en hochant la tête. S'il n'était pas très bon calculateur, c'était un marin pratique et expérimenté. Il savait que, dans le Pacifique, de nombreux récifs ne sont pas portés sur les cartes, que des hauts fonds sous-marins les entourent et que le moindre heurt contre un bloc de corail y suffit à perdre le Grampus. « Parez à la manœuvre » hurla-t-il en se précipitant sur le pont où dormaient les matelots de quart. Ce que sa voix n'éveilla pas fut rappelé à la réalité par quelques solides coups de bottes. Moins de 10 minutes plus tard, le campus, à sec de toile, se balança immobile sur les flots clapoteux. Le capitaine Ellis avait décidé d'attendre le jour pour explorer l'îlot inconnu. Sa provision d'eau était maigre. Il comptait profiter de la circonstance pour se ravitailler, si possible, ce qui lui éviterait d'atterrir au Fanning et de risquer de voir déserter ses marins. Dans cet îlot qui paraissait inhabité, les gaillards n'auraient qu'une envie d'abandonner le Grampus. Ayant donc laissé le quart à son premier officier, le capitaine Ellis descendit dans sa cabine et consulta la carte. Aucune erreur n'était possible. À la place approximative occupée par l'îlot, la carte indiquait des fonds de plusieurs milliers de mètres et cela sur une étendue de plusieurs dizaines de milles carrés. « Ben, une éruption volcanique, sans doute, » pensa Ellis. « Pourvu qu'il y ait de l'eau, on verra. » Sur quoi, il tira de son armoire une bouteille de vin, car sa provision à lui n'était pas terminée, donna une longue accolade au récipient, se jeta dans sa couchette et s'endormit. Au jour, il fut debout et s'embarqua avec 8 hommes sûrs et 12 de barils vides dans une des chaloupes du brick. L'îlot était encore éloigné de près de 3 000. C'était à peine si le courant avait fait légèrement dériver le Grampus dans sa direction. Sous les rayons du soleil, qui se faisait de plus en plus ardent à mesure que l'astre montait dans le ciel clair, les matelots du brick voguèrent. L'îlot inconnu se rapprocha. Il était entouré d'une mince ligne de brisants au-dessus duquel la mer déferlait doucement. Ils furent facilement franchis et l'embarcation vint s'échouer sur le rivage. Un rivage étrange. De larges dalles de pierre grise, semblables à de la pierre ponce, mais d'une dureté que l'acier ne pouvait mordre, et joints ensemble avec le fini d'un travail d'ébénisterie. Pas de mortier, pas de ciment, elles étaient pour ainsi dire encastrées les unes dans les autres. En silence, Ellis et ses hommes, laissant un mousse dans la chaloupe, prirent pied. Ils purent aussitôt constater qu'en mains endroits, des efflorescences de coraux étaient incrustées entre les étranges dalles. Des algues aux formes bizarres gisaient, desséchées sur le sol. Des squelettes de poissons, d'êtres aux structures inconnues, étaient entassés çà et là dans les creux de la pierre. Mais pas de traces humaines. Rien que ce grisâtre à demi recouvert par les coraux et les débris d'algues et de poissons. Ellis, sa carabine au poing, par prudence, il s'était armé et avait armé ses hommes, avança. Il put bientôt reconnaître que des chemins avaient dû être tracés sur ce sol. Des chemins larges de 50 à 60 mètres, lisses comme un billard, mais toujours encombrés de débris. À 200 mètres environ du rivage, Ellis s'arrêta net devant ce qu'il avait cru être un bloc de rocher. C'était une tête humaine, la tête d'une statue gigantesque. Une tête dont la merveilleuse beauté frappa l'inculte fruste baleinier. Une tête mutilée, verdie par endroits, fêlée, lézardée, recouverte à demi par les coraux qui s'étaient incrustés dans ses fissures. En quelques secondes, les marins du Grampus avaient rejoint leur chef et formé le cercle autour du gigantesque et étrange débris. « Mais elle est plus grosse que le sphinx, ma parole !» grommela enfin Ellis, sans exagérer. Il regarda autour de lui comme s'il espérait apercevoir les pyramides. Aussi loin que le regard pouvait s'étendre, rien que les dalles grisâtres, pas d'autres débris. « Go on, allons !» murmura enfin le capitaine baleinier. Suivi de ses marins, il se remit en marche. Les rudes pêcheurs de baleines étaient silencieux, comme s'ils eussent été dans un cimetière. Derrière leur capitaine, ils franchirent environ 500 mètres, ayant dépassé une sorte de faille, évidemment produite par une secousse sismique, débouchèrent soudain sur le sommet de l'îlot, c'est-à-dire au centre de la gigantesque lentille de roc. De nouveau, Ellis s'arrêta. Autour de lui, des plaques de matière translucide d'un bleu vert, épaisses d'environ 1 centimètre, longues de 20, larges de 5, gisaient sur le sol. Il y en avait des milliers, toutes intactes. S'étant baissée, Ellis constata qu'elles étaient munies, sur leur tranche, de deux protubérances connues qui auraient pu servir à les accrocher. Il en ramassa une et vit qu'elle était couverte de caractères bizarres, aux formes géométriques. Il y avait des triangles équilatéraux, scalènes, rectangles, des cercles, des triangles sphériques, bref, presque toutes les figures de la géométrie et même quelques-unes que le capitaine Grampus ne sut identifier et qui se rapportaient à des problèmes qu'il n'avait jamais abordés. Ces figures étaient reliées entre elles, si l'on peut dire, par des points formant des lignes courbes, droites, brisées, parallèles, se coupant. Les unes étaient simples, d'autres doubles ou triples. « Je surborde l'écriture de sauvage, » grommela Ellis, sans y mettre malice. « On dirait du verre. » Il leva la main et de toutes ses forces projeta sur le sol la plaque qu'il avait ramassée. Une sorte de crépitement bref retentit, assez semblable à celui que produirait la déchirure brutale d'une grosse toile, cependant qu'une courte flamme violette éblouissante jaillissait. « Dame !» s'articula Ellis en se rejetant vivement en arrière. « C'est des choses du diable !» murmura un des marins. James Ellis croyait peut-être au diable, en tout cas, il croyait sûrement aux jouissances que procure l'argent. En un éclair, il pensa que ces bizarres plaques pourraient peut-être se vendre et à bon prix. S'il ne rapportait pas d'huile de baleine, peut-être pourrait-il s'en tirer en vendant ces pierres diaboliques. « La paix !» déclara-t-il. « Ces briques-là, ça vaut de l'argent. Les savants nous les paieront cher, d'autant plus qu'il y a des écrits là-dessus. On a vendu gros des machins de ce genre-là qui venaient du Yucatan. Binaire, les garçons, et embarquons tout ça. Oh, j'ai l'idée que nous n'aurons pas perdu notre temps et que nous... « Et ça, capitaine ?» interrompit révérencieusement un des marins qui s'était écarté de quelques pas. « Quoi ça ?» grogna Ellis. Il devait être ému car, en toute autre circonstance, son poing ou sa botte se fût déjà abattu sur le fâcheux. « Regardez !» hoqueta l'homme. Ce fut dit d'une telle voix qu'Ellis bondit. Et il vit. Au pied d'un bloc de pierre grise, une boule grosse comme une orange était posée. On eût dit un bloc d'améthyste, d'une améthyste traversée par des veines d'un rouge sombre et dont le centre était formé d'un noyau absolument noir. « Eh bien !» cria Ellis, « ramasse-la et fais voir !» L'homme ne bougea pas. Ellis avança d'un pas et se trouva ainsi placé de façon que la mystérieuse sphère lui renvoya dans les yeux les rayons du soleil. « Oh ! Jeta-t-il à moi ! » Les marins accoururent. Le capitaine Ellis était aveugle. Il porta les mains à ses yeux, chancela et s'abattit sur le sol. Un matelot se précipita vers la sphère. À ce moment, il se baissa, saisit la boule, sans en être incommodé. « Oh, c'est lourd » maugréa-t-il. Nul ne fit attention à ses paroles. Les rudes matelots, oubliant les brutalités et les abus de leur capitaine, s'empressaient autour de lui. On le releva, on le fit asseoir. Proférant des blasphèmes furieux, il tourna la tête, cherchant indistinctement à retrouver la lumière. Là, là, fit-il en dirigeant son regard mort vers la boule violette que le matelot avait enfin réussi à soulever et enserrer de ses grosses mains tatouées. Mais ça pèse plus que du plomb, 20 fois plus, dit l'homme dont le visage était rouge et les veines des tempes gonflées par l'effort qu'il soutenait. Il laissa retomber la mystérieuse sphère et poussa un soupir énorme. « Oh, plus de 100 livres !» murmura-t-il en s'essuyant le front de la manche de sa vareuse. « Là, 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 la boule !» répétait cependant l'aveugle en tendant les mains vers la sphère. « Dame de l'eau, conduisez-moi à bord, garçon. Tu vois plus haut ma tête. Je vous le dis, moi, qui a le diable dans cette damnée île ?» gronda un matelot nègre. « Ferme-la, Sam, brut idiote que tu es. Vous êtes tous des porcs et des bons à rien. Allez, reconduisez-moi à bord ou je vous rosse. Attendez un peu que mon étourdissement soit passé, » menaça le capitaine Ellis. « J'outrerai la marche, moi. » Ces paroles, prononcées par un homme privé de la vue, étaient tout simplement grotesques. Mais les marins de Grampus étaient tellement habitués à trembler devant leur capitaine que pas un n'osa élever la voix. « À bord !» répéta Ellis. « Et va arrière, Parker, arrive ! M'appuierai sur toi, et attention à me faire trébucher si tu tiens ta sale tête !» Parker, un colosse haut de 6 pieds, s'approcha du capitaine Ellis en se dandinant. Celui-ci lui saisit le bras. « Allez, en route !»« Et la boule, on l'emporte ?» demanda l'homme qui avait soulevé la sphère violette. « Bon, porte-la à ta grand-mère, j'en veux pas à mon bord, entends-tu ? Allez, laisse ça, ordonna Ellis. » L'homme obéit par habitude, il laissa tomber la boule. À la grande surprise de tous, il n'y eut qu'un choc sourd. Pas d'étincelle ni de crépitement. Mais la boule, en frappant une des dalles qui recouvrait le sol, la fit littéralement voler en éclats. Une cavité ovoïde apparut, juste assez grande pour contenir un melon de moyenne taille. Elle était revêtue à l'intérieur d'un enduit rougeâtre assez semblable à de la terre réfractaire. « Eh bien, allez-vous arriver ?» aboya Ellis, qui, se tenant d'une main au bras de Parker, frottait de l'autre ses yeux morts. « Oh, attendez que j'y voie de nouveau. Je vais vous faire courir, mes gibiers. Je voudrais que le diable vous emporte tous et vous étrangle avec vos tripes. Entends-tu, Parker, les marches, ou alors ?» Un concert d'exclamations poussé par les matelots du Glampus couvrit sa voix. Ahuri, il se tut un instant et demanda « Qu'est-ce qu'ils ont encore, ces gabiers de poulaine ? » Si le capitaine Ellis avait pu encore se servir de ses yeux, il aurait instantanément satisfait sa curiosité. Un des marins, en effet, s'étant penché sur la cavité creusée dans la dalle de pierre grise, en avait retiré un livre semblable à ceux employés par les Japonais et les Chinois, c'est-à-dire dont les feuillets sont pliés en accordéon et se lisent de gauche à droite, sur le même côté, puis sur le côté opposé. Le bizarre volume était enfermé dans un étui de métal de couleur bronzée, tirant entre le vert et le brun, et de la dimension d'une boîte à cigares. Il était fait d'une substance plus mince que le papier, tout en étant à peu près indéchirable. De couleur jaune, ces pages étaient recouvertes de signes géométriques allant des plus simples jusqu'aux plus compliqués. 3 cercles entrelacés étaient gravés sur l'étui de métal. Les marins du Grampus, se poussant, se bousculant pour mieux voir, avaient instantanément entouré leurs camarades et, tout en contemplant l'extraordinaire trouvaille, échangeaient entre eux des réflexions plaisantes, saugrenues, ou simplement étonné. « Faut-il que je vous envoie une balle dans la carcasse ? Rascal !» éclata le capitaine Ellis en constatant qu'on ne lui répondait pas. Les marins entendirent. Ils se retournèrent et virent que leur capitaine avait lâché Parker et mis sa carabine en joue dans leur direction. « C'est un livre, capitaine, un livre que Joyce vient de trouver dans un trou !» expliqua un des matelots. « Oh, diable, la boulez-vous tous, allez à bord, par le diable et de la route !» tourna Ellis d'une voix furieuse. Cette fois, les marins obéirent. D'ailleurs, ils étaient tous en proie à un certain malaise. Les prodiges auxquels ils avaient assisté depuis leur débarquement sur l'îlot inconnu les emplissaient d'une sourde terreur. En silence, ils revinrent vers leur chaloupe. Ils s'y rembarquèrent et embarquèrent avec eux la mystérieuse boule violette et l'étui de bronze contenant le livre. La suite du voyage du Grampus devait être plus favorisée. 8 mois plus tard, le brick, ses cales remplies d'huile de baleine, ses agrès ployant sous le poids des fanons qui étaient accrochés pour s'y dessécher, entrait dans le port de San Francisco. Le capitaine Ellis, qui n'avait pas recouvré la vue et ne devait jamais la recouvrer, avait abandonné le commandement et laissé à son second la direction du navire. Ce fut ce dernier qui débarqua la mystérieuse boule ainsi que le livre renfermé dans l'étui de métal. Le rapport de mer du capitaine du Grampus ne fit guère sensation. Dans ce rapport, le capitaine Ellis racontait ce qu'était advenu sur l'îlot inconnu qu'il avait baptisé Grampus Island en l'honneur de son brick. Grampus Island, rit Canal, employé de l'amirauté américaine à Washington, lorsque le rapport lui parvint. Ha ha! Tous les mêmes, ces capitaines! Des calculateurs à l'envers. Il aura fait équivoque et baptisé du nom de son navire un des nombreux récifs de Fanning. Enfin, le prochain vaisseau hydrographe qui partira ira s'enquérir de cette Grampus Island et de ses dalles de pierre ponce et de ses briques de verre. Il se trouva que le Dixie, croiseur de la marine américaine, allant de Seattle à Sydney, passa quelques mois plus tard aux environs du gisement prétendu de Grampus Island. Son capitaine voulut s'assurer de l'exactitude du rapport de James Ellis. Au point indiqué, il ne trouva rien. Il fit sonder 700 brasses de fond. Pendant 2 jours et une nuit, il explora les alentours. Rien. Des fonds oscillant entre 600 et 1000 brasses, mais pas le moindre récif. Grampus Island ne figura jamais sur les cartes américaines. Et à juste titre, nul ne devait jamais la retrouver. Pendant ce temps, Mr. Wilson Dills, le second capitaine du Grampus, promu commandant à la suite de la cécité d'Ellis, s'était entendu avec ce dernier pour tirer le meilleur parti possible du livre et de la sphère d'améthyste. Plusieurs brocanteurs et antiquaires auxquels il s'adressa offrirent des sommes dérisoires des deux objets. Un chimiste assura que la boule était faite d'un minerai de plomb saturé de sel qui l'avait rendu translucide. Quant au livre, un antiquaire déclara qu'il ne pouvait être que chinois ou japonais et d'époque tout à fait moderne, c'est-à-dire sans valeur. Un ingénieur, à qui Wilson Dills montra le bizarre volume, fut d'avis qu'il avait été écrit récemment par un éminent mathématicien, car certains signes qui étaient tracés se rapportaient à des problèmes ardus qui n'avaient été abordés que très récemment par de rares savants, des problèmes ignorés d'Euclide, de Descartes et de Le Verrier, ce qui d'ailleurs ne donnait aucune valeur au livre en question. L'équipage du Grampus, cependant, était resté à San Francisco. Les matelins entendaient avoir leur part du prix de vente de la boule et du livre, et comptaient bien que ledit prix de vente serait considérable. Peu à peu, ils abandonnèrent leurs prétentions. Aussi bien, leur argent diminuait. Ils allaient devoir se rembarquer, repartir. Au cours d'une réunion qui eut lieu dans un bar de Barbary Coast, le quartier fréquenté par les marins, les matelots du Lampus, autorisèrent le capitaine Wilson Dills à vendre les deux objets à n'importe quel prix, pourvu qu'il en tirât quelque chose. Wilson Dills, de plus en plus embarrassé, d'autant plus que le capitaine Ellis, aigri par son malheur, ne cessait de le harceler, finit par proposer la boule violette et le livre inconnu à un médecin qu'il avait soigné quelques années auparavant, le docteur Atkinson. Celui-ci offrit $50 du tout. Ils furent acceptés, ce qui fit $5 pour le capitaine Ellis, 3 pour Wilson Dills et $1 pour chacun des 42 marins du Krampus. Le capitaine Ellis mourut misérablement le 2 décembre 1876. Quant à Wilson Dills et aux marins du Grampus, ils se dispersèrent sur d'autres navires où ils racontèrent la tragique escale de Grampus Island et on ne les crut pas. Le docteur Atkinson était un esprit curieux. 2 ans durant, il essaya de déterminer quelle était la substance véritable de la boule violâtre. Il la soumit à tous les réactifs connus. Aucun ne put y mordre. Il la plongea dans l'acide sulfurique sans résultat. Il la fit marteler par un marteau pilon de 100 tonnes chez un métallurgiste de Pittsburgh. La boule résista à l'effroyable pression. Les aciers les plus durs s'émoussèrent sur elle. Le diamant ne parvint pas à la rayer. De guerre lasse, Atkinson abandonna ses recherches. Ou plutôt, il les reporta sur le second objet, sur le livre mystérieux, en pensant que, s'il parvenait à en déchiffrer les signes, peut-être y trouverait-il la solution qu'il cherchait. Le docteur Atkinson possédait une petite aisance. Il pouvait se dispenser de faire de la clientèle. Pendant des années, il travailla, s'acharna. Il se rendit en Europe, à Londres, à Berlin, à Paris, chez les plus éminents mathématiciens, à qui il soumit les assemblages de figures géométriques tracées sur le livre. Il n'a reçu que des réponses évasives. Oui, les signes mystérieux se rapportaient à des problèmes de géométrie, transcendante, mais il ne concluait pas. Aucun problème n'était amené jusqu'à sa solution. Atkinson ne se découragea pas. Il consulta des cryptographes. Il étudia les milliers de systèmes d'écriture secrète. Il fit venir à grands frais tous les ouvrages existants sur ce sujet. Peu à peu, il abandonna ses occupations. Il négligea ses amis. Ses ressources diminuèrent par suite des énormes frais qu'il s'était imposés et qu'il avait obligé à entamer son modeste capital. Les années passèrent, toujours aucun résultat. Atkinson continua ses recherches. Vivant avec sa vieille servante Maria, à qui il ne payait plus de gages depuis des années, dans un modeste logement de 3 pièces situé au 13e étage d'une maison ouvrière, le docteur Atkinson, maigre, chauve, voûté, ne vécut plus que dans l'espoir de déchiffrer le mystérieux livre. 30 années s'écoulèrent. Dans les derniers jours d'avril 1905, le docteur Atkinson, âgé de 77 ans, parvint enfin au but. Un matin, Maria, revenant du marché, crut son maître devenu fou. Il pleurait, il dansait, il riait aux éclats. « Maria, s'exclama-t-il, j'ai trouvé. C'est simple, savoir si tu savais, la chose la plus merveilleuse et splendide qui ait jamais existé. La face du monde va être changée, tout le monde sera heureux. Oh, j'ai déjà traduit les premières pages, quel roman !» Et puis il explique les formules. « Oh, nous ne sommes que des enfants, des sauvages, c'est sublime, quelle découverte, nous allons être heureux !» Oui, mais en attendant, les choux ont encore augmenté de 2 cents, mon maître. Je me demande si cela continue. Comment tu pourrais y arriver avec ces voleurs de marchands? Maugréa la vieille servante, qui, sans écouter les nouvelles exclamations du vieillard, alla s'enfermer dans sa cuisine. Pendant les jours et les nuits qui suivirent, sans arrêt, sans dormir, le docteur Atkinson, penché sur sa table de bois blanc, travailla avec acharnement. Je vais envoyer la première partie à Washington, expliqua-t-il à la vieille servante, le 5 mai. C'est un roman merveilleux, fantastique. Et je vais ensuite transcrire et mettre au point les formules de Xixier. Quel homme! Ben, surhomme! C'étaient tous des surhommes! Et sans entendre le grommellement de sa servante, le docteur Atkinson sortit, portant dans une vieille serviette de maroquin élimée les pages qui contenaient la traduction de la première partie du livre mystérieux. Il revint vers 11 heures du matin. Ayant ouvert la porte de la cuisine, il recula, les yeux arrondis par l'épouvante. Du fourneau, une lueur violette, incandescente, insoutenable, 100 et 100 fois plus forte et plus ardente que celle des rayons solaires, jaillissait, emplissant la cuisine d'un halo fulgurant. Atterrée, épouvantée, comme changée en statue de pierre, Maria immobile regardait. Mais malheureuse, s'exclama le docteur Atkinson, tu. Oui, j'ai jeté le livre au feu et aussi la boule. Vous devenez fou, mon maître, et vous. Un claquement sec retentit, suivi d'un sifflement aigu, si aigu qu'il ne fut jamais perçu sans doute par des oreilles humaines, et avec un effroyable fracas, le gigantesque immeuble s'écroula. Et de proche en proche, les maisons voisines s'éboulèrent. Avec un grondement sourd, la terre trembla comme si elle eût dû se disloquer. Et ce 5 mai 1905, San Francisco, la reine du Pacifique, fut à demi anéantie. Le manuscrit du docteur Atkinson avait quitté la capitale de la Californie par le dernier train qui devait partir de San Francisco ce jour-là, quelques minutes seulement avant le terrible cataclysme. Il était adressé à Maître Isambard Fullen, le fameux physiologiste de l'université d'Harvard, qui, sa retraite prise, habitait aux environs de Washington. Pendant longtemps, le docteur Atkinson et Maître Isambard Fullen avaient entretenu des relations d'amitié, d'autant plus que M. Fullen, maintenant âgé de 89 ans, avait été un des maîtres d'Atkinson. Aussi était-ce à lui que le médecin avait voulu réserver la primeur de son extraordinaire traduction. Le paquet arriva à bon port. Mais déjà, la mort avait touché M. Fullen. Il était dans son lit lorsque son valet de chambre lui apporta l'envoi d'Atkinson. M. Fullen l'ouvrit et murmura: Oh, pauvre garçon! Il est mort dans la catastrophe comme tant d'autres. Oh, il aurait mieux fait de m'apporter cela lui-même. Et ce fut tout. Mr. Fullen fut déposer le manuscrit dans sa bibliothèque et n'y pensa plus. Il y pensa d'autant moins qu'il s'éteignit quelques jours plus tard. Ses héritières, deux jeunes nièces qui allaient se marier, firent vendre en bloc la bibliothèque du savant. Le manuscrit du docteur Atkinson fut adjugé, avec un fort lot de vieux papiers, à un brocanteur de Washington. À la suite de quels avatars, le manuscrit à peu près intact du docteur Atkinson parvint-il entre les mains d'un bouquiniste de la Bowery à New York? C'est ce qu'il serait peut-être possible d'expliquer, mais cela ne présente aucun intérêt. Toujours est-il que ce manuscrit nous l'achetâmes. Et nous le publions tel quel. Le docteur Atkinson a-t-il traduit fidèlement le livre mystérieux? Traduttore, assurent les Italiens. Il est certain que le docteur Atkinson, pour mieux se faire comprendre, a dû traduire par des expressions à peu près équivalente, les appareils bizarres et les détails étranges dont fourmille son manuscrit. C'est ainsi qu'il se sert des mots mètre, litre, kilomètre et autres mots représentant des mesures modernes pour désigner les mesures employées par le peuple disparu dont il est parlé. Il se sert également d'expressions connues seulement depuis quelques années, telles que radium, rayon X, ondes hertziennes, dissociation de la matière. Sans doute les Iliens désignaient autrement ces phénomènes dont ils avaient, il semble, éclairci la véritable origine. Tout paraît démontrer en effet qu'ils avaient réussi, au moyen de l'électricité, à dissocier la matière à volonté et à libérer l'énergie immense qu'elle contient, et qu'ils avaient découvert aussi les principes de la vie. À quoi tiennent les destinées de l'humanité ? Le manuscrit de Xie contenait deux parties. L'une relatait son histoire, l'autre condensait en formules les extraordinaires découvertes de ce peuple unique. C'est la première partie que traduisit le docteur Atkinson. S'il eût traduit la seconde, la civilisation eût fait un pas de géant. Des découvertes qui demanderont des milliers d'années de recherche pour être possibles nous eussent été révélées. La durée moyenne de la vie humaine eût été considérablement augmentée. Bien des maladies, sinon toutes, eussent disparu. Des problèmes qui nous paraissent insolubles eussent été élucidés. Mais le docteur Atkinson ne traduisit que la première partie du manuscrit. Ne regrettons rien. Les Iliens, malgré leur civilisation, auprès de laquelle la nôtre est barbarie, ne nous étaient en rien supérieurs. Ils connaissaient la haine, la guerre. Ils n'avaient pu supprimer aucune des passions qui nous agitent. Et sans plus, publions l'extraordinaire manuscrit de Xie.